RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI pour parler de football dans une semaine sans Ligue des Champions, mais dans une semaine exactement, c'est-à-dire dans 8 jours, aura lieu la 6e et dernière journée pour se qualifier, la dernière chance pour certains surtout d'atteindre les 8e de finale, et particulièrement le Paris Saint-Germain qui jouera sa place à Belgrade. Alors comment se préparer dans quelle atmosphère surtout se préparent les Parisiens, alors d'ailleurs que des joueurs souffre de se sentir un peu mal considéré, un peu écarté du groupe. État des lieux avec nos spécialistes du Paris Saint-Germain. Éric Rabessandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
J'imagine que vous avez un regard bien particulier,
toujours,
vous, en tant qu'ancien joueur. Et puis évidemment, Dominique Sévrac, bonjour Dominique.
Bonjour Annie, bonjour à toutes.
Toujours
et à tous.
Au fait des dernières nouvelles en ce qui concerne le club. Lui, il a le Paris Saint-Germain dans les veines 365 jours par an, et pas seulement quand le club de la capitale joue. Il en a fait de sa passion un livre d'abord, et puis il en a fait de cette passion une profession, puisqu'il est journaliste sportif, un confrère, peut-être pas trop objectif. Damien Dol-Chabourine, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans Radio Foot International. Vous êtes un confrère de Libération.
Exactement.
Vous écrivez très objectivement sur le Paris Saint-Germain.
Toujours. Et sur Marseille aussi.
Oh là, oui. Bon, il n'y a pas de Marseillais aujourd'hui, particulièrement dans ce bureau. Nous parlerons aussi de la fin d'une histoire entre Arjen Robben et le Bayern Munich. L'ex-international des Oranges a décidé de quitter le club bavarois et peut-être le football, qui sait, ça il le dira sans doute plus tard, à 35 ans. En tout cas, après une belle et longue carrière, il nous laisse un style à la fois inimitable et prévisible. David Lortolari, vous nous en parlerez d'Arjen Robben, n'est-ce pas ?
Bonjour Annie, bonjour à tous. 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. 10 ans de carrière au Bayern pour lui.
Oui, mais aussi, il y a Hugo qui est un admirateur caché d'Arjen Robben. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Oui, mais d'autant qu'il a toujours fait vieux, Arjen Robben. Alors savoir qu'il est vraiment vieux, entre guillemets, ça ne nous rajeunit vraiment pas.
Oh là là, on est vieux très vite avec vous.
Vous êtes dur avec lui quand même. Hein.
Radio
Il
Foot.
A perdu ses cheveux rapidement.
Ouais, c'est pas, bah mais ça, c'est pas de sa faute. Radio Foot, c'est parti.
Pourquoi le PSG est au point mort en Coupe d'Europe? Si à la fin de cette saison, Monsieur Tactique n'a pas fait gagner la Ligue des Champions à mon équipe, il cédera sa place d'entraîneur.
La nouvelle saison du PSG.
Moi, je suis d'accord pour tous les entraîneurs. Tant qu'il m'autorise à tirer un petit pénalty de temps en temps.
Impossible.
Et même un tout petit à la 38e journée, alors qu'on mène 5-0 contre Dijon et que Neymar en a déjà marqué 4.
Non.
Même pas un coup franc? Un corner?
Non.
Une touche?
Bon, ok pour un seul pénalty.
Se masque les yeux, Cavani s'élance, c'est parti! Et c'est de l'or! Edinson Cavani qui remet le Paris Saint-Germain au niveau de l'OM et qui rentre encore un peu plus dans le cœur des supporters du PSG avec ce coup franc magistral.
C'est le moment pour Paris, 113e minute. C'est le moment pour Paris!
Surface de réparation, Javier Pastore, il va frapper.
Goal! Ah, il est incroyable. Ah, c'est une énigme.
Goal!
Ah, c'est un mystère ce joueur.
Javier Pastore, Javier, mais c'est quoi ce but, Javier?
On n'a pas besoin. Lui aussi, il a le PSG dans les veines. C'est notre confrère.
Hein,
Bruno,
dans les cordes vocales aussi.
Bruno Salomon qui nous raconte ce but de Javier Pastore. Et puis avant, on avait eu recours au guignol quand même pour mettre un peu de rire et de sourire dans cette émission. Paris dans les veines. Il est de quelle couleur votre sang? Alors finalement, est-ce qu'il est bleu et rouge ou alors noir et blanc comme est la nouvelle tenue de ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions?
Ça commence bien. Rouge et bleu. Non, rouge et bleu.
Rouge et bleu. Exactement. Vous abandonnez pas les couleurs historiques du club.
Non.
Alors Damien Dole, une chose, vous êtes un ancien du virage Auteuil, vous êtes un supporter, un fanatique, un passionné, c'est ça, pour d'abord vous nous le racontez dans un livre, mais surtout comment c'est vivre le sous-titre de ce livre, c'est 365 jours dans la vie d'un supporter. Vous dites que vous depuis 10 ans vous n'avez pas loupé un seul match en direct. D'abord à chaque fois au bord d'un terrain avec le PSG ou à travers les écrans maintenant.
Surtout à travers les écrans, puisque depuis le plan Le Prou, on a été un petit peu, on va dire, le plan Le Prou qui a vu l'expulsion des groupes de supporters en 2010.
Bon, enfin, des groupes de supporters violents, essentiellement. C'est pour ça qu'ils étaient virés.
De groupes ultra. Bah,
ultra, oui.
Ouais, finalement, en fait, tous les supporters, y compris ceux qui n'étaient pas dans des groupes, en fait, ceux qui étaient à Auteuil ou à Boulogne, en fait, ont vu leur abonnement annulé. Puis après, il y a eu l'abonnement aléatoire, etc. Enfin, ça a été fait un peu. Sans, on va dire, un peu de manière, voilà. Enfin,
juste pour rappeler, c'était un plan d'assainissement après des épisodes violents. Je dis pas que tous les supporters, et je dis pas qu'il y a une part d'injustice dans ce plan Le Prou, mais il y avait eu des événements violents dans la deuxième partie des années 2000 qui ont poussé à l'instauration de ce plan Le Prou pour assainir les tribunes du Parc des Princes.
Oui, ça a été un petit peu à l'anglais, c'est-à-dire qu'en gros, comme il y avait plusieurs centaines de supporters, on peut dire un millier, je sais pas. Après, c'est difficile de rendre des statistiques précises, mais. Les tribunes populaires du parc, c'était à peu près entre 12 et 14 ou 15 000, ça dépend quelle limite on mettait au parc. Personne, quand on interrogeait les spécialistes de la question, ils nous expliquaient que c'était plusieurs centaines de personnes qui posaient réellement problème, des vrais problèmes de violence. Du coup, entre ces plusieurs centaines et ces quelques 10 000 personnes dans le stade, il y avait une différence. Ils ont essayé de, voilà, oui, il y a eu en fait, pour rappeler les choses, le soir de PSG Marseille, le 28 février 2010, il y a eu un supporter de Boulogne, Yann Laurence, qui est décédé après des bagarres entre Auteuil et Boulogne. Donc évidemment, non, je dis pas du tout la violence. C'est pas du tout. Ça s'est clairement déroulé. Après, ils ont une manière, voilà, très radicale de prendre le.
De vouloir résoudre le problème.
Exactement.
Et donc, vous n'avez plus le droit d'aller au parc.
Si, j'ai le droit, en fait, c'est maintenant.
Vous avez une carte de presse, surtout.
Ouais, voilà, c'est ce qui me permet d'être tranquille en zone neutre.
Je comprends tout.
Oui, c'est ça, en fait. Si, j'ai le droit, mais en fait, après, en fait, le fait de supporter son équipe d'un point de vue ultra ou d'un point de vue supporter lambda, comme j'explique toujours, selon moi, c'est pas une question d'intensité. Je pense qu'il y avait des personnes qui étaient supporters dans les tribunes latérales ou qui même n'allaient jamais au parc, qui aimaient autant Paris que moi. C'est plutôt une question de pratique, en fait, le fait de suivre son équipe dans les déplacements, de participer aux animations. C'est pas du tout une, voilà, j'étais pas plus supporter de Paris quand j'étais ultra et je me considérais pas un meilleur supporter de Paris ou un supporter de Paris plus pur ou que sais-je.
Non, mais surtout fidèle.
Il y a des supporters lambda qui sont fidèles, qui ont été fidèles dans des années très douloureuses et qui eux n'avaient pas la possibilité de chanter pour s'occuper pendant des matchs très très ennuyants voire catastrophiques. Donc,
vous vous souvenez du jour où vous êtes devenu supporter du Paris Saint-Germain?
Le jour non, c'est je me souviens de mon premier match au parc, c'était un PSG FC Vaduz en 96. Donc ça, je m'en souviens très bien, j'ai des images très précises alors que j'avais que 11 ans. Après, c'est assez diffus, comme mon père était fan de Paris, que mon oncle était fan de Paris. Voilà, c'est assez diffus, mais je mets.
Il a pas le choix. Voilà.
Vous êtes parisien aussi?
Banlieusard, j'étais du 91.
Oui, enfin de la région parisienne. Ouais. Donc souvent, ça influence ou ça aide.
Exactement.
Hugo?
Oui, alors parce que le sous-titre c'est 365 jours dans la vie, pour être exact, d'un supporter du PSG. Donc là, on est bien après vos derniers pas en tant qu'ultra du Parc des Princes. On est sur la saison 2017-2018, la saison précédente. Ça commence notamment avec l'arrivée de Neymar au PSG, la manière dont vous la suivez quasi minute après minute sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, en lisant également le Parisien dans lequel œuvre Dominique Sebrac.
Bonne lecture.
Le PSG a quand même beaucoup changé entre 2010 et cet été 2017. Est-ce que comment vous la voyez ce changement de dimension? Le fait qu'on signe un joueur à plus de 220 millions d'euros, le fait que le club soit propriété d'un État, le Qatar, qui a d'autres visées que des visées purement sportives. Est-ce que l'ancien ultra que vous êtes et le journaliste d'un quotidien dit de gauche que vous êtes, est-ce que ça a atteint un petit peu, ou en tout cas, est-ce que ça a contrarié votre passion?
Atteint ou éteint votre passion?
Bah, éteint, la preuve que non. En fait, c'est toujours compliqué sais, quand on, en fait, quand on est supporter, nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est le terrain, c'est le respect du maillot par les joueurs, c'est le fait que l'équipe joue bien, qu'elle nous rende fiers. Après, si on doit parler, par exemple, du Qatar très précisément, c'est un sujet en soi. Mais moi, le fait que le Qatar possède le PSG, avant, c'était Colony Capital, c'était un groupe américain qui a participé au licenciement de dizaines de milliers d'ouvriers aux États-Unis et même en France. J'entendais très peu à l'époque de dire est-ce que vous avez honte des ouvriers virés parce que vous êtes possédé par Colony Capital, ouais. Qui est un fonds d'investissement assez voilà. Et ça, c'est arrivé. Alors aussi parce qu'ils mettaient aussi beaucoup moins de pognon dans le PSG à l'époque. Enfin, ils en mettaient quand même, mais ils en mettaient. Donc, du coup, c'était, il y avait plus ce gap entre Paris et le reste du championnat comme à l'époque. On l'a vu d'ailleurs dans les résultats sous Colony Capital.
Très vite, oui.
Et mais non, ça a pas du tout. En fait, quand on est fan d'une équipe, on veut la voir gagner. Moi, à titre personnel, si je m'interroge aussi sur le foot business, moi, je considère que oui, il y a trop d'argent dans le football en général. On peut tout à fait discuter aussi de par exemple des lois liberticides contre les supporters en France et en Occident, etc. Donc il y a des questions vraiment générales sur le foot, mais en soi, en fait, à partir du moment où les règles sont celles-ci, soit j'arrête complètement le foot, soit je reste supporter de Paris, parce que les règles, c'est pas Paris qui les a dictées, c'est l'UEFA et la FIFA et les autres grands clubs.
Damien, alors vous êtes face à un ancien joueur du Paris Saint-Germain, et moi j'aimerais vous mettre en face à face sur une question. D'abord, quel rôle estimez-vous que doit avoir le supporter ou que doivent avoir les supporters par rapport à une équipe et par rapport aux joueurs? Et après, je demanderai à Eric ce que les joueurs attendent de ce groupe de fidèles plus que des spectateurs, on va dire, qui viennent dans un stade.
Bah, en fait, après, ça dépend encore une fois ça dépend si on se considère comme un ultra ou un supporter. Moi, je me sens pas, enfin, suffisamment légitime pour dire ce que les ultras doivent faire ou ce que les supporters doivent faire. Après, moi, à titre personnel, j'estime que voilà, il faut y avoir évidemment soutenir l'équipe. Aussi, des fois, dire quand ça va pas et faire se rendre compte aux joueurs, je pense qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes, mais du coup, de dire voilà, notre sentiment pour se rendre, voilà, pour rendre compte à quel point on est atteint.
Par exemple, quand on siffle Neymar, quand il laisse pas Cavani.
Non, ça, j'ai trouvé ça ridicule, parce que siffler un joueur qui est à deux doigts de mettre un quadruplé, voilà, c'est. Mmh. Mais finalement, d'ailleurs, les sifflets, j'étais ce soir-là au parc, et les sifflets ne venaient pas forcément d'ailleurs du virage Auteuil, mais j'étais juste à côté de la tribune de presse. Il y a des tribunes, donc de supporters lambda, et là, ils étaient tous déchaînés. Je les regardais, je disais, mais il a marqué un quadruplé, c'est un des meilleurs joueurs monde. Il nous fait des dribbles que moi, à l'époque, encore une fois, dans le stade, je ne voyais jamais, mis à part à l'époque Ronaldinho. Et du coup, je me rendais pas compte. Mais ça, je trouve ça ridicule. Personnellement, j'ai jamais sifflé un joueur pendant un match. Donc, du coup, je me sens pas concerné par ce type de choses-là. Après, il y a aussi le fait de supporter les couleurs de l'équipe, de l'entité du club, c'est-à-dire réaliser des beaux tifos, chanter plus fort que l'adversaire, enfin chanter plus fort que le parquage adverse. Il y a aussi ça aussi. Il y a plusieurs matchs qui se déroulent dans un match.
Mais évidemment. Vous voulez parler de l'OM par exemple? Non, mais parce que dans le genre ambiance, grosse ambiance dans un stade, j'imagine que ces confrontations-là sont particulières.
Ah bah oui, c'est un régal. Mais sauf quand ils nous battent. Mais je veux dire,
ça fait longtemps que ça va être tranquille.
Ouais, non, mais c'est ça.
Tranquille.
Moi, je suis plus au stade pour en profiter. Donc moi, j'ai vu quasiment. Je crois que je n'ai pas vu une seule victoire de Paris contre Marseille. À chaque fois, j'ai.
Un enfant de 7 ans n'a toujours pas vu Marseille gagner contre le PSG.
Ouais, là, je suis pas trop ça, parce qu'à un moment donné, ça va tourner et après, on va nous.
Une fois sur 200, ils ont le droit. Hein.
Alors Eric, vous qui êtes les joueurs et qui, quand vous jouez à domicile, alors bon, après ils vous suivent évidemment, mais surtout peut-être particulièrement et sur des matchs difficiles, sur des matchs où on attend, on pense à celui du Real l'année dernière où il y avait tout ce battage pour que tout le stade soit derrière les joueurs. Qu'est-ce que vous les sentez, ces supporters plus fidèles, plus engagés, plus passionnés?
Oui, les joueurs, ils les sentent. Après, il y a une relation.
Quand vous êtes sur la pelouse.
On entend. Après, il y a une concentration qui fait que on est concentré sur ce qu'on a à faire. Mais
Voit l'autre jour, je crois que c'était Neymar, Thiago Silva, hein, pendant Liverpool, qui demandait au public d'intervenir.
C'est vrai que c'est important de. On le sent. C'est pour ça que je dis qu'on le sent. Après, il y a une concentration sur les choses à faire, qui en plus sur un match de Liverpool est encore plus impressionnante, parce que parce que voilà, y a, on n'a pas le droit à l'erreur et que on a vu qu'à Naples les gars étaient concentrés et sur une seule erreur tu peux exploser complètement ton objectif. Donc là sur Liverpool c'était assez flagrant. Ils avaient besoin du soutien du public, mais aussi ça leur permettait de rester concentrés sur le jeu. Je pense que de motiver le public, ça les a aussi aidés à rester concentrés sur l'objectif et à rester sur le. Mais pour revenir sur le rôle du les joueurs ont une obligation de résultat et de performance. Maintenant c'est un peu le même boulot, c'est-à-dire que on a envie d'avoir de l'abnégation et de l'acceptation de que de temps en temps ça ne peut ne pas fonctionner et on peut rater des matchs
aussi, voilà
mais qu'il y ait que ça continue. Maintenant il faut aussi un devoir de respect du maillot, de choses comme ça qui peuvent disparaître de temps en temps avec certains joueurs.
Dominique,
sur les supporters, c'est les joueurs qui les ont qui ont réclamé leur retour après le plan Leprou. C'est Marquinhos, Matuidi, Thiago Silva qu'on dit à un moment donné à Nasser Al-Khelaifi, ça suffit, on joue dans une espèce de théâtre pour être une cathédrale, pour être sympa. En fait, c'était complètement mort. On entendait le ballon, on a l'impression de voir des matchs à huis clos avec 40 000 personnes. C'était hyper étrange. Donc Nasser Al-Khelaifi a fait revenir fait venir les supporters à Auteuil, le CUP, voilà. Alors il y a des défauts, tout ça, mais globalement c'est une réussite. Le parc s'est remis à chanter, voilà, ça aide les joueurs incontestablement. Vous allez à Anfield, ils ont compris que quand il y a le nouveau Unibail Rosario, quand il y a les buts qui s'enchaînent, voilà, vous pouvez être pris dans une tornade. Alors c'est important que le public soit là. Après sur le supporterisme en lui-même et au parc comme ailleurs, ce qui est compliqué parfois c'est de trouver le juste équilibre entre des supporters qui veulent co-diriger le club en disant nous on était là avant, maintenant on sera là après, quel que soit l'actionnaire, quel que soit les joueurs, et donc on a des droits, on a des devoirs certes, mais on a aussi des droits. Et c'est compliqué dans le foot business où il y a un propriétaire qui met ses tarifs, qui met son maillot, qui met ses couleurs, qui met ses loges, qui met tout ça. C'est compliqué de trouver le juste milieu entre des supporters qui disent qui veulent un petit peu dire voilà, nous on incarne la mémoire du club, et puis d'un businessman qui est là un peu pour faire aussi de l'argent.
Ah oui. Mmh. Hugo ?
Oui, alors ce bouquin, donc c'est une année dans la peau d'un supporter du PSG, sauf que vous ne l'écrivez pas à la première personne du singulier mais à la troisième. Vous ne dites pas je mais on, donc vous racontez votre vie mais pas que, vous racontez quelque chose à laquelle tous les supporters parisiens quelque part peuvent s'identifier. Quelle est la particularité de ces supporters parisiens par rapport aux autres supporters en France ou par rapport aux autres supporters de grands clubs européens? Quelle est la particularité du supporter parisien?
Ça c'est une excellente question. Je pense que en fait finalement je pense pas avoir assez de recul, je pense pas assez connaître toutes les tifoserias de l'intérieur comme je connais celle de Paris. C'est très difficile de voir la particularité, parce que finalement à chaque fois qu'on va regarder par exemple est-ce que ce sont des supporters qui sont plus sévères avec les joueurs, on va trouver au moins 5 ou 6 clubs qui vont être tout aussi sévères. C'est difficile de répondre à cette question là quand on est tellement j'ai essayé d'instruire dans ce livre qu'est-ce que ça veut dire qu'être supporter au quotidien. Encore une fois, on a eu des récits de qu'est-ce que c'est qu'être hooligan, on a des récits de qu'est-ce qu'être un ultra, mais finalement la masse des supporters, ce que je suis redevenu par la force des choses en 2010, finalement on a assez peu de textes là-dessus. Et c'est vrai, quand j'utilise le on, comme je l'explique au début du bouquin, c'est un on qui veut parfois dire je, c'est-à-dire c'est une anecdote mais que j'estime suffisamment représentative pour apparaître dans le bouquin. Ça peut être un on les supporters du PSG sur la relation qu'on peut entretenir avec des joueurs comme Neymar ou Mbappé ou d'autres comme Verratti. Bon, moi j'ai une relation encore plus particulière avec Verratti parce que j'ai appelé mon gosse Marco à cause de lui.
Il a quel âge maintenant?
Il a 3 ans.
Il sort pas jusqu'à 3h du matin, arrêtez de parler.
J'espère que ça ne cache rien, mais je crois pas. Et puis ça peut parfois être le on supporter en général, parce que être supporter, il y a quand même parfois des choses qui peuvent être similaires pour un supporter de Paris, de Marseille ou de Lyon ou de n'importe quel club dans le monde.
Moi je trouve Hugo, le public parisien, très connaisseur de ballon. Je trouve par rapport à d'autres publics, parce que je vais voir le PSG en région, donc je vois des différences. Je le trouve particulièrement connaisseur. Je le trouve très métissé. La sociologie du public parisien, notamment à Auteuil, c'est beaucoup de classes sociales différentes, beaucoup de couleurs différentes. Et le défaut, je dirais qu'il est... en ce moment, il y a un conflit avec Rabiot. Rabiot a un conflit avec le club et on siffle Rabiot. Ça c'est des codes que je peux pas, moi en tant que qu'amoureux du Paris Saint-Germain, amoureux du foot, je peux pas comprendre. Pour moi, Rabiot il a tort de faire ce qu'il fait, mais c'est pas une raison pour le siffler. Si on est supporter, on va jusqu'au bout et on aime tout le monde. On ne siffle pas ses propres joueurs. Ils vont s'en charger les adversaires de siffler votre équipe. Donc moi ça c'est, je trouve qu'il est parfois trop exigeant ou qui s'enferme dans des logiques qui m'échappent.
Pour comprendre. Ah oui, Eric.
Non, mais je voulais rebondir sur l'histoire de Rabiot.
On va y venir. Juste pour clore le chapitre purement sur Potteris, parce que le temps passe très vite dans cette émission, tout le monde le sait. Une dernière question, parce que vous commencez là-dessus. Alors, je conseille déjà aux lecteurs pour vraiment se mettre dans l'ambiance de qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on a dans la veine et la couleur du sang qui y coule. C'est cette nuit du 6 à 1. Ça vous rend vraiment malade physiquement. Si ça, évidemment, l'élimination à Barcelone. Ouais. D'ailleurs, Hugo Moissonnier était toujours là. Oui,
il était à la remontada. J'étais à quelques mètres de Dominique. C'est vrai qu'on était,
on était toujours là dans les bons moments.
Effectivement.
Ouais, non, ça a été atroce, ça a failli mal tourner. D'ailleurs, quand je suis sorti, en fait, je me suis embrouillé avec un mec qui portait qui était pro Barça. Je sais pas s'il était marseillais ou vraiment barcelonais. À ce moment-là, on n'essaie pas de réfléchir. Ça s'est bien passé quand même.
Donc, c'était un Français, tu veux dire.
Oui, voilà.
Un fini commissariat, voilà.
Mais oui, ça a été la plus grosse.
Une souffrance physique.
Ah oui, ouais, complètement. Non, mais c'était la plus grosse désillusion en tant que supporter, on va dire, lambda, parce qu'après, évidemment, le fait d'être exclu du parc, c'était un autre type de souffrance qui était au même niveau. Mais voilà. Mm-hmm. En tout cas, oui, c'était, il n'y a pas eu pire dans ma vie de supporter.
Question justement dans le même style, là-dessus, sur le fait d'être supporter. Oui, j'étais, moi, en présence de sympathisants et de supporters du Paris Saint-Germain, même lorsque Abonal, Amara Diané, il y a quelques années, pour Paris Saint-Germain, sauve le Paris Saint-Germain en première division. À ce moment-là, comment on se sent? Est-ce que tout menace de s'écrouler, ou est-ce qu'on relativise déjà en se disant, on va rebondir si on descend en deuxième division? Comment on se sent à ce moment-là?
Ah bah, j'étais à Caen pour le match Caen PSG qui, alors, je sais plus.
3-0.
Voilà, j'étais juste devant, bah, du coup, par cas, j'étais juste devant, il y a un but sur corner au moins avec, je sais plus qui, est le joueur Canet qui nous fait une révérence. Après, du coup, il a eu quelques difficultés à tirer les corners suivants par ailleurs, après nos arts provoqués comme ça. Et en fait, c'est vrai que là, à ce moment-là, enfin, je sentais au bout
on
de ma vie,
tout petit, ouais.
Au bout de ma vie. Non, la Ligue 2, je pouvais même pas y penser. C'était même pas quelque chose d'envisageable. Mais là, vraiment, c'était vraiment un sentiment à la fois de, enfin, c'était une douleur et puis une panique assez intense. Puis de Amara Diané, c'est les derniers mots de mon bouquin dans les remerciements, c'est les derniers mots.
Ça c'est bien.
C'est le dernier.
Ça, je trouve que c'est bien parce que ça manque.
Ça doit paraître loin, mais malgré tout, c'est pas si
loin. Non, en fait, sans Amara Diané, il y a peut-être pas le rachat par le Qatar, et donc du coup, il y a peut-être pas tous les titres qui suivent. Et oui, alors il a pas été le seul à nous sauver. C'est plus le symbole que le joueur, mais c'est important quand même de le noter parce qu'il a fait ce qu'il fallait au bon moment. Et peut-être que lui, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait dans le reste de la saison, mais au moins il l'a fait.
Moi, David, je m'en souviens comme si c'était hier. Le lendemain, si on descend, on vous descend. C'est les inscriptions au camp des loges. Ça, c'est sympa. On casse la voiture de Mario Yepes. Et Michel Moulin est nommé. Une sorte de directeur sportif bizarre.
Ça a été efficace, du coup, parce qu'on n'a pas été relégué.
Damien, une dernière question. On est mieux informé, finalement, quand on est journaliste ou quand on est supporter? Parce qu'avec tout, maintenant, les réseaux sociaux, les systèmes d'information et d'information qui circulent entre vous.
Bon, je pense qu'en fait, oui, les réseaux sociaux ont pu horizontaliser, on va dire, la circulation d'informations. Après, il y a encore certaines informations qui ne sortent que dans la presse traditionnelle. Donc je jette surtout pas la pierre sur la presse tradie parce que j'en fais j'en fais partie, donc ça veut dire que je critiquerai mes collègues, je sais comment ils travaillent et qu'ils travaillent bien. Après oui, quand on est supporter, c'est vrai que il y a peut-être pas 10 minutes où je regarde pas un truc sur Paris dans la journée. Donc du coup
Alors voilà, parce qu'on a pas mal de supporters de l'OM hein, en Afrique, il faut bien le dire, mais il y en a aussi du Paris Saint-Germain parmi nos auditeurs. Donc si vous voulez tout savoir comment se comporter en étant supporter, eh bien ce livre de Damien Dole-Chabourine, et c'est aux éditions Marabout. Mais Damien, puisque vous êtes un confrère, vous allez continuer à parler avec nous. On va parler justement du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, Dominique, qu'est-ce qui s'est passé là 14 victoires, et puis boum, ça y est, on s'arrête.
C'est une honte hein.
Quel scandale. Alors,
Thomas Tuchel démission.
On établit quand même un record. On établit un record de 14 victoires, mais donc il n'y en aura pas 15. C'est un incident, un accident.
C'est anecdotique pour moi. C'est aussi un match où on oublie un ou deux pénaltys pour le Paris Saint-Germain, notamment un à un moment charnière sur Neymar, juste avant
Vous êtes dans la ligne Tuchel.
Non, non, mais voilà, c'est comme ça. Souvent, ils sont quasiment 80% du temps, ils sont arbitrés différemment dans leur sens. C'est-à-dire que, comme la Juve en Italie, les grosses équipes
bénéficient
en leur faveur. Mm-hmm. Donc voilà, bon là, ça a pas tourné. Neymar sort un peu blessé. Voilà, vous avez on est la semaine d'un très gros match physique contre Liverpool. Bordeaux fait un super match avec des super ingrédients. Voilà, c'est Ricardo, je l'adore. Donc moi, c'est un 2-2 qui
c'est
me.
C'est la famille, quoi.
Ah moi, ça reste en famille, c'est très bien.
Ça fait sourire le supporter.
Non, juste sur ce match-là, de toute façon, oui, l'objectif de cette semaine-là, je pense que voilà, il valait mieux gagner contre Liverpool et faire nul à Bordeaux que l'inverse. Mm. Et puis jouer à Bordeaux, c'est toujours compliqué. Et encore une fois, ça change strictement rien à la marche.
C'est bien, moi, je trouve que c'est bien. Ça prouve que on dit souvent la Ligue 1, ils ont tous renoncé. Bah voilà, Bordeaux n'a pas renoncé. Bordeaux a joué avec ses qualités. Le coaching de Ricardo, avec l'entrée de Cornelius, est bonne. Donc voilà, et puis ça ouvre là peut-être la voie à d'autres pour leur montrer que faut arrêter de se mettre à 11 derrière le ballon, à pas mm-hmm. bousculer Paris. Mm-hmm. C'est bien pour la Ligue 1, c'est bien pour le Paris Saint-Germain.
Bah enfin oui, Hugo.
Oui, je voulais demander à notre supporter si ça le faisait encore trembler ce genre de match où le PSG était accroché alors qu'il domine, il surdomine la Ligue 1. Est-ce que ça vous fait encore vibrer, fait un peu trembler? Est-ce que ça fait quelque chose, une petite boule au ventre ce genre de match?
Ah ouais, toujours. Bah, de toute façon, après de toute façon, le match à Bordeaux, encore une fois, toujours difficile, donc on n'appréhende pas évidemment un Bordeaux PSG par rapport à d'autres matchs contre un promu, etc. On sait qu'on va galérer. Après, de toute façon, quand le scénario du match est difficile comme celui face à Bordeaux, du coup, on retrouve nos réflexes de supporters un petit peu, on va dire, fébriles.
Alors dans une semaine, le Paris Saint-Germain jouera son va-tout, hein, ça sera à Belgrade face à l'Étoile Rouge, un PSG qui doit se préparer en fait dans ce groupe C où finalement trois équipes peuvent encore, hein, on l'a déjà dit, et le PSG simplifierait la donne en gagnant simplement du côté de Belgrade. En tout cas, peut-être un problème, Eric, les gilets jaunes, hein, le mouvement social s'est invité dans l'avant-match, puisque le match du Parc des Princes samedi entre le PSG et Montpellier. En plus, Montpellier aurait sans doute été un bon partenaire à quelques jours du match à Belgrade. Ce match est annulé. Comment on fait dans ces cas-là? On sait que le Paris Saint-Germain aimerait bien trouver un adversaire.
Moi, franchement, je trouve que c'est bien physiquement. Ils ont assez de matchs pour préparer ce match rater ce match de Montpellier. Je pense que non, au contraire, encore plus pour reposer les organismes et préparer, même si on
pas
a toujours
l'impression.
Alors. Parce qu'ils jouent quand même tous les trois jours. En plus, là, ils avaient une série de matchs assez difficiles avec plusieurs matchs à l'extérieur. Donc, le fait que ce match ne se joue pas, c'est peut-être aussi un bon point pour se préparer et se mettre bien physiquement, déjà, retrouver un peu d'énergie. Parce que on a senti que à Bordeaux c'était plus compliqué après, déjà nerveusement, parce que il y a une décompression un peu inconsciente qui fait que même s'ils ont mis tout ce qu'il fallait, hein, je trouve qu'ils ont fait un match sérieux à Bordeaux. Bon, il y a Areola qui nous fait une petite sur le deuxième but, les deux pénaltys, après Bordeaux qui a fait son match.
Bon
voilà, il y a plein de trucs qui font que, mais ils ont quand même été sérieux, donc je pense qu'il y a une décompression inconsciente qui fait ce résultat à Bordeaux, mais voilà, je pense que c'est bien de rater ce match contre Montpellier, ça ne dérange pas du tout.
contre Liverpool la semaine dernière, Bernat, il n'avait pas joué depuis 3 semaines, j'étais inquiet, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Donc en fait je pense que c'est plutôt bien. La saison elle est lancée là. On est au cœur de la saison. On est au milieu, bientôt au milieu. Ouais. Donc là, franchement, si vous ratez un match, ça change rien, franchement. Non. Ça change rien. Ils vont jouer ce soir pour la dernière fois, une semaine avant, c'est parfait.
Alors venons-en quand même au contexte du club, peut-être. Alors à tort ou à raison, parce que on se pose des questions autour de l'effectif, on va dire, grâce notamment à nos confrères. Alors aujourd'hui, c'est l'équipe qui parle du malaise Cavani. On va venir aussi hier dans le Parisien où vous interrogiez autour de Rabiot. D'abord, Edinson Cavani, est-ce que c'est une injustice, selon vous, dont est victime le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, qui se sent un peu trop écarté parce qu'il sort, il finit plus les matchs. Tiens, David Lortolari.
Ben, c'est marrant parce qu'il y a un entrechoc entre ce contexte-là dont vous parlez, Annie, et puis je veux pas faire long là-dessus, mais en Allemagne, on met en question actuellement Mario Gomez, qui est un attaquant qui a été illustre dans le championnat d'Allemagne.
Serial et aussi buteur,
aussi avec la sélection, et qui est en plein malaise avec son club de Stuttgart. Alors c'est pas comme le PSG qui lui caracole en tête alors que Stuttgart en Allemagne va mal.
Oui. de classement.
Non, ce que je voulais dire par là, c'est que une mauvaise passe pour un attaquant ou un moment où il ne marque pas, où il a des soucis relationnels peut-être avec des coéquipiers, ça ne dépend jamais que de lui, c'est pas possible. Ça vient aussi des gens autour. Alors je vais pas dire qu'ils lui font pas de passe.
Je suis d'accord.
Mais
tu peux le dire.
C'est numéro 9, l'avant-centre est quand même en bout de ligne. Bah, il dépend de la mécanique autour de lui. Tout ça pour dire que instinctivement et en étant à l'extérieur de ce contexte-là, moi je vais pas mettre tous les mots sur Edinson Cavani.
Non, d'ailleurs il a l'air plutôt, on dirait, de souffrir d'une certaine situation, Eric.
Ouais, il souffre, c'est vrai que le contexte est pas facile pour lui parce qu'il y a
quelqu'un de sensible, vraisemblablement, très latin et très sensible.
Ouais, et puis sain aussi, c'est-à-dire qu'il a une mentalité un peu à part
il
par rapport à tous les ouais, entre autres.
Il sort pas.
Non, mais bon, voilà, il est un peu c'est un peu l'extraterrestre par rapport aux autres joueurs de foot où il va pas s'acheter des grosses voitures,
sérieux.
Il est sain. Non, mais ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça.
Exactement.
Franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir des joueurs comme ça, donc ça rassure. Mais voilà, après, forcément, il est un petit peu moins performant aussi. Donc il y a le fait qu'il en prend plein la tête, mais aussi parce qu'il est un peu moins bon.
Mais est-ce qu'il est
bon
en manque de confiance mais comme Mario Gomez?
C'est pas forcément un manque de confiance. Je pense qu'il y a aussi le système dans lequel évolue le Paris Saint-Germain qui fait que il y a une très bonne relation entre Mbappé et Neymar. Il en souffre parce que on se focalise sur cette relation et du coup on en oublie un peu le fait de passer sur les côtés et de donner des ballons sur l'avant-centre.
Il oublie, on se souvient des statistiques l'année dernière dans ces matchs de Ligue des Champions, on voyait qu'il y avait aucune passe.
Et justement pour parler de statistiques, il est quand même à 9 buts en championnat. Alors il est un peu moins bon en Ligue des Champions, il a qu'un but et un but sur en sélection, mais il est à 9 buts en championnat. Et n'oublions pas que Neymar est à 10 buts, mais il y a 4 pénaltys dedans. Donc si vous les donnez à Cavani, il est à 13 buts. Et ça change tout ce qu'on peut dire. Et surtout la vision qu'on a de Cavani. Donc il y a attention, faut faire attention dans les.
Ah oui, non, mais
c'est pour ça.
Moi je prends pas
moi, je suis fan de Cavani, mais je sais qu'il est moins performant en ce moment.
Hugo?
Oui, on a l'impression qu'il y a quand même un peu deux étapes dans cette première partie de saison qui l'ont peut-être un peu cassé, Cavani, ce match face à Lyon où il sort et d'un coup le PSG se réveille et notamment le duo Neymar et surtout Mbappé qui signe un quadruplé et cette mise sur le banc de touche à Naples alors qu'il revient dans son ancien jardin. Est-ce que ces deux étapes, elles ont pas un peu cassé, peut-être de manière irréparable, la relation entre Cavani et son club?
C'est Dominique. Possible que à la fin, peut-être pas au mercato d'hiver, mais que en juin, il s'en aille. Après, il faut que
parce qu'ils sont mal aimés.
Parce que voilà, il y en a un trop entre guillemets.
Il est plus prioritaire. C'est-à-dire que
il y en a peut-être d'autres qui vont partir aussi.
Si on sort quelqu'un, c'est lui.
Il y a une partie des supporters. Vous leur dites, on joue avec Neymar, Mbappé devant et Di Maria ou Drexler et on enlève Cavani, il y en a qui vont vous dire oui. Alors après, c'est le chouchou du parc avec Marco Verratti, c'est les deux chouchous du parc. Damien pourra nous le confirmer, c'est les deux joueurs les plus aimés. C'est très compliqué. Lui, il est fragile psychologiquement à cause de sa situation familiale, sa séparation, le fait qu'il voit pas souvent ses enfants fait que c'est quelqu'un de très sensible, hypersensible, et il se nourrit de ce qu'il pense que la vie ne lui a pas donné, de cette haine qu'il a vis-à-vis de la vie pour marquer des buts et extérioriser ça.
Ça rappelle d'autres attaquants sud-américains comme par exemple Ivan Zamorano pour n'en citer qu'un, qui se nourrissait aussi de la même chose.
Donc lui, il est hypersensible. Après, il est, on peut dire que ça marche pas avec Mbappé et Neymar. Quelle que soit la faute, si c'est de leur faute ou si c'est de la sienne, mais
c'est toujours les deux.
Dans les faits,
ça ne marche pas très bien. Mm-hmm. Donc lui-même a connu une première période à son arrivée au Paris Saint-Germain, ce qui était dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, exilé sur un côté. Alors exilé, c'était plutôt pour défendre que pour attaquer, où il attaquait quand même assez de manière assez centrale. Donc son histoire avec le Paris Saint-Germain, elle est toujours un peu contrariée depuis 2013. En même temps, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, et en même temps, c'est pas le plus grand joueur de l'histoire du club. C'est pas le et actuellement. Techniquement, c'est pas le meilleur. Moi, je préfère voir Mbappé, je préfère voir Neymar.
Il est pas spectaculaire, c'est sûr, par rapport à Neymar et Mbappé.
C'est un super joueur, mais voilà, il sera jamais ballon d'or. Il est régulièrement dans la liste des 30. Il a fini combien? 23e, je crois.
22.
Tout augmente. Mais voilà, c'est un cas très compliqué.
Damien, c'est le chouchou du Parc des Princes, bien que ce ne soit pas le plus spectaculaire.
Moi, j'en sais rien, je suis plus au parc, mais c'est sûr que des fois, en fait, enfin, il va marquer un but, il va tout de suite y avoir le chant sur Cavani que j'entends, donc, du coup, de ma télé. Mm-hmm. Et Neymar, des fois, il va en mettre un ou deux, il va nous régaler de plein de choses et on va pas entendre forcément chanter sur lui. Mais après, chacun fait ce qu'il veut dans le stade. Juste sur Cavani, après, c'est vrai que Tuchel commence à trouver, en tout cas, une formule qui marche, qui fonctionne. Il a essayé au début, il voulait,
il le disait d'ailleurs,
dans le Parisien, donc je l'avais lu, qu'il voulait jouer absolument avec les quatre offensifs, c'est-à-dire
avec Di Maria,
Cavani, Di Maria, Neymar, Mbappé.
Ouais, c'est quatre étoiles, il disait.
Voilà, exactement, ça n'a pas forcément fonctionné, et du coup, comment dire, la relation technique qu'il peut y avoir entre Neymar et Mbappé, qui savent jouer dans les petits espaces, un peu moins Mbappé, mais au moins qui savent jouer dans les petits espaces. Souvent, on a vu quand ils essayaient de combiner avec Cavani, ça se passait pas très bien. Donc, du coup, peut-être que Tuchel a dit, ça fonctionne pas, on va tester autre chose. Et puis après, aussi, la saison est longue, et peut-être qu'en fait, finalement, en février ou en mars, il sera peut-être titulaire, si Paris se qualifie en huitième. En fait, on parlera plus de tout, on pensera plus à tout ça.
Alors, l'autre inconnu aussi, eh bien, c'est du côté d'Adrien Rabiot, partira pas. Alors, on connaît un peu les états d'âme, de lui et de sa maman, pour ce qui est de reconduire les contrats. Écoutons Thomas Tuchel questionné, parce que en ce moment, il le laisse plutôt sur le banc, Adrien Rabiot.
Nous avons joué beaucoup avec une selle numéro 6 et c'était le choix pour Marco Verratti ou contre Liverpool pour une position de Marquis qui a entré défensif en milieu. C'était une position pour Marquis et pas une décision contre Adri. Il y a une situation sportive et je suis responsable pour ça. Les décisions sont seulement sportives, mais il y a une situation avec le club et Adri avec longtemps de négociations de son contrat. Je veux qu'il joue, il a fait entraînement et je pense qu'il est prêt.
Alors Adri, Marquis, on peut décoder Marquinhos, Adrien, Rabiot. Donc Adri, certes peut jouer en Ligue 1, mais par contre pas en Ligue des Champions. Évidemment, pour un joueur, c'est aussi difficile à encaisser. D'autant que c'est un joueur formé au Paris Saint-Germain. C'est un des rares de cet effectif de stars internationales. En plus, qui est au niveau, on peut le dire. Est-ce que c'est dommage ce qui lui
pas
arrive
toujours. Cette saison, pas toujours. Moi, je crois qu'il fait.
On l'a vu. Parfois au niveau de l'effectif. Alors,
c'est un très bon joueur, mais qui cette saison fait pas une très grande saison, qui est promis à être capitaine un jour du Paris Saint-Germain,
mais qui est
en position de force. Il est en fin de contrat le 30 juin prochain 2019. Donc à partir du 1er janvier, selon la règle, il peut signer où il veut. Un joueur de son calibre, il n'est pas international, oui, il l'est plus, mais il l'a été. Il le redeviendra si jamais Ndombele ou Tolisso ne reviennent pas ou ne s'imposent pas.
Très courtisé.
C'est un garçon qui peut avoir 20 millions d'euros de prime à la signature. 20 millions d'euros, n'importe où. Après, est-ce qu'il jouera n'importe où? Ça, c'est pas sûr. S'il signe à Barcelone, je suis pas sûr qu'il sera titulaire à Barcelone. S'il signe à Manchester City, je suis pas sûr qu'il sera titulaire. Mais bon, lui, il le croit.
Alejandro pense qu'il jouerait.
C'est ça.
Laissons-le le croire. Mais après, il a un entourage très compliqué. C'est sa mère qui a une influence considérable sur sa carrière.
Qui gère ses contrats.
C'est un garçon qui a un père qui est souffrant, qui est handicapé, qui ne marche pas, qui vit dans un caisson un peu. C'est qui, je l'ai vu au Parc des Princes, voir après des matchs, visiter le parc. C'est voilà, il a une vie très compliquée, on n'est pas à sa place. Comme ça de l'extérieur, il est très agaçant, mais je sais pas, peut-être qu'en vivant avec lui, c'est un garçon super charmant et tout ça. Moi, je trouve que sa mère, elle prend trop de place, mais ça, c'est aussi le foot d'aujourd'hui, avec les parents qui sont les frères qui peuvent être agents. Voilà, c'est...
Je vous ai vu faire la moue quand je disais qu'il était au niveau.
Non, ouais, parce qu'à l'heure actuelle, il est pas au niveau. Il est pas au niveau de ce qu'il doit proposer au Paris Saint-Germain. Alors, il y a sa situation contractuelle. Là-dessus, il est en position de force. Il a été mis en position de force par le club. C'est-à-dire que c'est de la faute du club s'il se retrouve dans cette situation. Donc, on peut pas pester après. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que les supporters le sifflent. Mais il a pas demandé à être, même si on lui a proposé des choses. Peut-être que si ça lui convient pas, il a le droit de refuser. C'est normal.
Oui, mais
en tant que joueur, je comprends ça.
C'est un bras de fer aussi.
Donc, c'est un bras de fer.
Essaye de tenir le plus.
Maintenant, si, c'est sûr que, en fait, ce qui le met dans cette difficulté, c'est que, à aucun moment, il a dit, je parlerai quand j'aurai trouvé un accord, ou si je ne trouve pas d'accord, je parlerai. Le problème, c'est qu'il laisse traîner les choses, ce qui fait que tout le monde commence à l'insulter parce que la situation n'avance pas. Et donc, il se met en porte-à-faux tout seul par rapport à cette situation. Après, au niveau de ses performances, il n'est pas au niveau en ce moment et il est loin d'être au niveau.
C'est déstabilisé aussi.
C'est pour ça qu'il ne joue plus.
Damien.
La manière dont Tuchel voit les choses au milieu de terrain, c'est quand ils sont en 3-5-2 ou en 3-4-3, c'est que les deux milieux qui sont action, en fait, doivent beaucoup courir. Et le nombre de fois où tous ceux qui suivent le PSG ont vu Rabiot perdre un ballon, par exemple, à 40 mètres de ses cages au milieu de terrain et ne pas revenir, quand il dit que ses choix sont sportifs, Tuchel, j'ai tendance à le croire, parce qu'en fait, il y a tellement peu de milieux de terrain disponibles au PSG, si Rabiot était très performant, il serait titulaire. Sauf que aujourd'hui, on se moque de Verratti parce que des fois il picole, des fois il fume, etc. Quand il perd un ballon, on peut pas lui reprocher de pas courir ou de pas essayer de faire la faute ou de pas faire chier l'arbitre. Enfin, c'est ce qu'on veut.
Mais en tout cas, il essaie de faire ça. C'est de l'année pour il le fait bien.
Mais du coup, Rabiot, c'est vrai que sur un terrain, il y a rien de pire, je crois, pour un supporter, mais pour quelqu'un qui suit le foot.
Je comprends ça.
Quand on perd un ballon, ce qu'on apprend depuis, je crois qu'on arrive au foot à 6 ans, en fait, on nous dit quand tu perds un ballon, la première chose à faire, c'est de quoi pour essayer de le récupérer. Mais quand même, tu n'y arrives pas.
Tuchel, il a complètement renversé la problématique du milieu de terrain parce qu'on a commencé la saison en se disant, mais il manque un 6, qu'est-ce que fait Théron Riquet, le directeur sportif? Il a oublié de recruter. Et contre Naples, un match hyper important, Paris peut tomber ce soir-là. Et contre Liverpool, encore un match encore plus important, Paris peut être éliminé. Deux matchs, il se passe de Rabiot et il invente ou Drexler au milieu de terrain ou Marquinhos. Et Marquinhos fait un match à pas regretter Rabiot.
Bien sûr.
Oui. Bon ben on continuera à suivre donc la situation d'Adrien Rabiot de ce Paris Saint-Germain qui est donc rentré dans un J-7 et ça va aller très vite.
C'est excitant.
Allez, on passe à un sujet où là c'est David Lortolari et Hugo qui vont voler la vedette.
Il faut qu'ils bossent un peu.
Die Rede ist von Ayen, Mr. Wembley Robben, selbst von tiefsten Krisen ließ er sich nicht stoppen, egal wie
viel. Robben ist er! Ayen Robben!
Ich schon ganz klar und ehrlich sagen, es ist mein, glaube ich,
je peux le dire clairement et honnêtement, c'est ma dernière année au Bayern de Munich. Ce fut selon moi 10 très belles années. J'ai pris cette décision tout seul car je crois simplement que c'est le bon moment. Le club se doit d'avancer, il est possible que j'aille jouer ailleurs, mais dans tous les cas, ce sera la fin d'une longue et belle période.
Dank dir gewann Bayern das Endspiel.
Danke Ayen. Donc, merci Ariane Robben,
oui.
N'est-ce pas,
hein, pas mal,
il
pas
a
mal,
sa non chanson en plus. Ouais. 10 saisons et puis il s'en ira, l'ailier droit donc du Bayern Munich qui a formé avec Ribéry un fameux duo incroyablement performant. Hugo, 35 ans donc ce joueur et un très gros palmarès, une longue carrière qui donc vous impressionne.
Bah oui, ça m'a impressionné. C'est fou comme le football peut être simple avec Ariane Robben. Un seul geste ou presque et vous garnissez comme...
En fait, il y en a deux, il y a un dribble et un
exactement. Alors, un combo, un simple combo.
La semaine dernière, ça a encore marché contre Benfica. Je crois.
Oui, ça marchera à chaque fois.
Et ça marchera à chaque fois. Bon, le problème, c'est que le temps passe pour tout le monde, y compris pour Robben, et peut-être que à un moment donné, le physique ne va pas suffisamment suivre. Il n'empêche qu'avec sa spéciale, il a bien garni l'armoire à trophées Ariane Robben. En tout cas, avec le Bayern Munich, qu'il a rejoint donc en 2009, 7 Bundesliga, 4 coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe en 2013. Cette Ligue des Champions en 2013, elle est un peu pour lui, elle est même beaucoup pour lui puisqu'il inscrit le but décisif en finale. Fin de match, ouais. Sur le plan personnel, meilleur joueur de Bundesliga en 2010, 143 ou alors 141, les sources divergent. But inscrit pour le Bayern Munich, qui fait en tout cas partie du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club bavarois. 101 passes décisives, 305 pardon, rencontres en tout. Et puis on rappelle qu'il n'a pas brillé que sous les couleurs du Bayern Munich.
Vous avez son meilleur classement au Ballon d'Or ou pas?
Je n'ai pas son classement. Il me semble que c'est 2013, quatrième. Il est au pied du
podium. Derrière Ribéry.
Derrière Franck Ribéry qui finit troisième cette année-là. On rappelle qu'il a également presque tout gagné avec Chelsea, qu'il a gagné une Liga avec le Real. C'était avant le Bayern. On rappelle également qu'il a disputé une finale et une petite finale de Coupe du Monde. En 2014, il est le meilleur joueur néerlandais. Il participe notamment à l'élimination de l'Espagne. Il participe à l'élimination du Brésil lors de la petite finale. Il fait partie de l'équipe type à l'issue de ce mondial brésilien. Bref, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est un immense joueur qui quitte le Bayern Munich et qui, dans pas très longtemps, on imagine, quittera le monde du football professionnel.
Alors qu'il quitte, il le quitte peut-être de son propre chef, mais la différence, parce qu'on voit Ribéry, nous, Français, on regarde toujours un peu Ribéry, on se dit « Ah bah il est encore prolongé, il est encore prolongé, il est encore prolongé ». La Robben, qui a été pas mal blessée ces dernières années, finalement, de lui-même, avec panache, il décide de partir.
Oui, c'est la lecture qu'on en fait, et c'est une vraie information à Annie, parce que ça veut dire qu'il est devenu un adulte. Ça veut dire que...
Hugo nous dit que ça fait longtemps qu'il est vieux.
Non, mais c'est d'ailleurs les 35 ans, c'est en janvier, si ma mémoire.
Oui, il a 34 ans pour l'instant. Pardon. Il est dans sa 35e année.
Est-ce qu'on peut respecter les gens qui perdent leurs cheveux, s'il vous plaît? Merci.
Mais vous les coupez, vous les perdez pas.
C'est vrai que c'est la phrase clé des dernières semaines que Robben a prononcée lui-même et qui est toute simple et qu'on est content de l'entendre prononcer parce que ça veut dire qu'il est lucide sur sa situation sportive aussi. Il a dit 10 années, c'est bien, maintenant je peux partir. Et ça, il y a encore quelques années, comme c'était un peu un enfant un peu orgueilleux, enfin, enfant gâté, et on se disait peut-être qu'il va jamais vraiment être capable de prendre des bonnes décisions. Il veut toujours jouer.
Ça vient vraiment de lui, c'est pas un commun accord.
C'est la sensation que j'ai. Alors après, en Allemagne, les confrères analysent de façon très pointue les statistiques. Ont remarqué qu'il courait un demi-kilomètre-heure moins vite que l'année dernière.
Non mais c'est rassurant déjà. Non, il vieillit, il va moins vite.
Quand on est lié, c'est important parce qu'on voit bien que cette saison, Franck Ribéry est de plus en plus remis en question parce qu'il a du mal à faire la différence dans les 1 contre 1.
J'ai eu peur. Je croyais que t'allais dire qu'il court de plus en plus vite. Alors là, c'était pas normal.
Non mais justement. Et moi, je suis frappé par ça. C'est-à-dire que Robben semble avoir la lucidité pour dire, ok, je peux peut-être faire encore un an ou deux chez moi aux Pays-Bas, alors ce sera peut-être au PSV Eindhoven ou à Groningen aussi dans l'un de ses clubs favoris, mais en tout cas la belle décennie Bayern s'arrête, me semble-t-il, au bon moment, et la saison est en cours. Dominique disait qu'on est au cœur de celle-ci tout à l'heure. Robben peut encore nous faire quelques beaux petits gestes,
ouais,
je pense, d'ici la fin de l'année.
Deux choses, moi je serais Lyon, j'essaierais de, par exemple, de ne pas le, qu'ils finissent au PSV Eindhoven l'année prochaine, mais c'est de rapatrier.
Les deux Hollandais, bah oui,
qui viennent en Ligue 1, c'est un joueur formidable. Oui. Et ensuite, Ribéry, ils ont eu la tête d'Ancelotti il y a 2 ans. Oui. Aujourd'hui, Nico Kovac, il est en difficulté avec le Bayern, parce que aussi, on dit que ces deux joueurs-là sont trop vieux et que ils ont, c'est eux qui tiennent le vestiaire, c'est eux qui décident un petit peu si l'entraîneur est accepté ou pas accepté. Et donc, à un moment donné, c'est bien aussi qu'il s'en aille parce qu'il faut que le Bayern apprenne à se renouveler.
Damien, quand on est supporter du PSG, on regarde quand même les autres équipes. On est supporter ou admirateur d'autres grands joueurs.
Oh bah, de toute façon, avant tout, un supporter de foot. Après, avant tout, je sais pas.
Non, mais en tout cas, oui. Voilà, gentiment.
Ouais, non, Robben, c'était un petit, ouais, ce truc-là un peu clinique, ce geste-là qu'on connaît tous. Enfin, je pense dès qu'on imagine Robben, en fait,
on le voit.
On l'imagine soit en train de faire l'amour, en train de se dire, on va se dire, il va taper quelqu'un. Soit on l'imagine en train de faire son dribble, où il rentre à l'intérieur et il fait une frappe monumentale. Et moi, la saison qu'il avait faite au Real, ça avait été, il avait été mais resplendissant. Après,
ils l'ont chassé pourtant, non?
Oui, bah oui, le Real chasse souvent des joueurs qui sont resplendissants, mais oui, et puis après, voilà, 10 ans au Bayern, le Bayern lors des dernières années, c'est sûrement des 3 clubs les plus performants en Europe, donc voilà, ça force le respect et ça va mettre un petit coup de vieux quand il va partir.
Eric Rabé-Sandratana, vous auriez peut-être pas aimé défendre face à Robben?
Ah ouais, non, bah c'était un joueur extraordinaire. Après,
vous aurez marqué un but, c'est ça?
Non, je vais pas dire
la
ça.
La science du placement.
Non, mais après, voilà, bien sûr, quand on défend sur un joueur comme ça, alors il peut éventuellement exploiter le...
N'est-ce
mais
pas
voilà, faut anticiper forcément, mais non, je suis très respectueux de sa carrière et de ce qu'il a fait parce que c'était un joueur incroyable. Alors j'ai dit c'était parce que ouais, il est forcément sur le déclin, mais je respecte toujours le joueur qu'il est. Mais je pense qu'il peut encore rendre service à des équipes qui en auront besoin. Donc je parle pas du PSG parce que là ça sera compliqué, mais je parle de ouais, je pense que une équipe comme Lyon, une équipe comme d'autres équipes comme Monaco peut-être, éventuellement il peut.
Hugo ?
Oui, alors quand même un point noir dans la carrière d'Arjen Robben, n'est pas sûr que ça se soit arrangé avec l'âge, c'est les blessures. Il a très souvent été blessé.
Mais après, c'est une gestion de.
Ça va mieux ces derniers temps. Ça va mieux.
C'était plus quand il était jeune, pour le coup.
C'est une gestion d'entraîneur, ça.
100 passes décisives quand même pour quelqu'un qu'on considère comme individualiste, c'est bien.
100 passes décisives, 140 buts, c'est pas mal sur 300 matchs.
Cavani en aurait besoin.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup Damien Dol-Chabourine d'être venu jusqu'à nos studios. Vous pouvez revenir pour nous parler de ce Paris Saint-Germain, donc comme vous en parlez dans votre livre Paris dans les veines, édition Marabout. Merci à Pierre Guérin qui m'a aidé aujourd'hui à préparer l'émission. À la réalisation, il y avait Laurent Salerno. Et on vous dit, eh bien, évidemment, à demain jeudi dans Radio Foot International. Merci.